Alexandre Aizé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la gestion d'Auris GP. On va parler avec vous de cette année 2014 et puis des perspectives. Comment vous avez vécu cette année? On peut dire que pour tous les investisseurs, c'est toujours les banques centrales qui sont à la manœuvre, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'investisseur?
Alors, tout à fait, 2014 a encore été l'année des banques centrales, même s'il y a eu, on a assisté à une forte dichotomie entre d'un côté les États-Unis qui finalement terminent leur quantitative easing, la banque centrale commence à gérer cette sortie d'afflux massif de liquidités. Et puis, on se rend compte que sur l'Europe, malgré tout ce qui a été fait de la part de la Banque centrale, il y a encore beaucoup de choses à faire et on n'est encore pas sorti de ce risque de déflation qui pèse sur l'économie européenne.
Alors justement, on pourrait dire qu'on est sur deux cycles différents. Sur la partie États-Unis, il y a eu quand même encore pas mal d'interrogations, même si les chiffres de l'emploi étaient plutôt positifs. Mais c'est vrai que tout au long de l'année, on a un peu hésité. Il y a eu un peu des inquiétudes, savoir est-ce que vraiment l'économie américaine a été repartie.
La vraie question, c'était de savoir si la Fed était préparée à une sortie de quantitative easing. On voit qu'elle hésite, qu'elle n'est pas encore prête. Elle a arrêté cet afflux de liquidités qu'elle avait mis tous les mois pour plusieurs milliards d'euros. Bon, ça, c'est bon, elle a terminé sans crise finalement majeure. Elle a créé une petite pointe de volatilité au mois de septembre et au mois d'octobre suite au communiqué du FOMC. Mais finalement, on voit que pour l'instant, c'est assez bien géré. Il va falloir voir la suite, notamment enfin, dans les prochains communiqués du FOMC, parce que savoir comment et maintenant ils vont gérer cette hausse des taux prévisible pour l'année prochaine sans créer véritablement de crise de liquidité, en tout cas sur le secteur notamment du crédit qui semble être un peu fragile actuellement aux États-Unis.
Oui, on peut dire aussi que du côté des actions, on arrive à des valorisations marché américain qui sont quand même plutôt élevées. Donc il y a un ensemble de facteurs pas évidents à gérer.
Exactement, et c'est une des raisons pour laquelle on peut s'attendre à un peu plus de volatilité. C'est vrai que les valorisations sont un peu importantes. Il va falloir un élan supplémentaire. C'est certainement pas l'élan des valorisations qui va donner un coup de pouce au marché actions américain, sachant que le dollar est plutôt en train de monter. Donc, quel est l'impact sur les valeurs potentiellement exportatrices sur cette zone-là? Il y a pas mal d'interrogations, mais ça reste une zone quand même beaucoup moins volatile que les autres, avec des perspectives qui sont quand même on va dire un peu plus prévisible que les autres zones.
Alors, ce qui n'est pas évident pour les investisseurs, c'est que finalement, ça fait quand même plusieurs années, même si ça va bien sur les marchés actions, que les marchés obligataires aussi ont performé. Alors qu'on peut dire en début d'année, c'est vrai que peu d'investisseurs disaient d'aller sur les marchés obligataires. Et puis finalement, quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'avec cette baisse continue des taux, bah finalement, on a toujours des opportunités pour les investisseurs.
On a toujours des opportunités et je dirais que la principale leçon de l'année 2014, c'est que les opportunités se sont transportées sur la zone cette fois-ci européenne. C'est-à-dire que c'est les taux de la zone euro qui gardent le meilleur potentiel parce que là, on a quand même une visibilité sur les actions prochaines de la Banque centrale qui font que les taux de toute manière doivent être tenus à des niveaux très très bas et doivent encore être entraînés à la baisse pour certains pays pour éviter le risque de déflation et le risque de dépression qui est encore très présent dans de nombreux pays.
Alors, comme tous les investisseurs, on regarde de près les discours des banquiers centraux. Est-ce que celui de la Banque centrale européenne vous paraît plus clair sur ces questions qu'ont animé les investisseurs, le quantitative easing à l'européenne?
Alors, c'est assez intéressant quand on regarde d'un peu près ce que fait la BCE depuis 2-3 ans avec Mario Draghi. En fait, Mario Draghi prépare les marchés, prépare les politiques, prépare les Allemands et les Autrichiens et les Hollandais à une action un peu plus importante. Et ce qui est vrai, c'est que à la fois 2012-2013 a été une année pour, on va dire, rendre la Banque centrale crédible. Et 2014 a été une année encore supplémentaire pour mettre en place des outils et permettre à la Banque centrale d'avoir la mainmise, notamment sur le secteur bancaire. Hein. Notamment, maintenant, c'est l'organisme de surveillance générale de ce secteur bancaire. On a vu le développement, cette fois-ci, des TLTRO, donc un financement à plus long terme. On verra si les banques jouent le jeu ou pas. Et puis, il y a eu quand même des annonces très importantes. Et ça, c'est intéressant. On va dire que, je dirais, pour faire un jeu de mots, la BCE se fédarise, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle utilise les outils de communication de la Fed pour mettre en place sa politique monétaire. Et on a eu deux réunions très importantes au mois de mars où là, elle a mis la place de l'euro comme outil de lutte contre la déflation. Donc on a vu tout d'un coup un mouvement très important sur l'euro face au dollar. C'est vraiment la Banque centrale qui a impulsé ce mouvement-là. Et puis deuxième chose, on voit qu'elle parle maintenant clairement de risque des déflations. Et lors de sa dernière réunion, elle a clairement parlé d'une possibilité de quantitative easing, c'est-à-dire à l'américaine, au niveau des souverains. Et il y a eu une phrase assez intéressante, assez marrante de la part de Mario Draghi, qui a dit, suite à une question d'un journaliste, mais ne pensez-vous pas que cette action peut être illégale? Il a répondu, pensez-vous que nous perdions du temps à parler de choses illégales? Donc ça voulait dire qu'en fait, c'est déjà dans les tuyaux. Si l'inflation continue à baisser, je pense qu'au premier semestre, il ne faut pas s'attendre à un quantitative easing trop tôt, puisqu'il faut voir effectivement les actions passées et leurs impacts. Ça doit se faire normalement dans le premier semestre, si besoin.
Si on revient un instant sur les États-Unis, est-ce que le consensus, effectivement, parce que sur la hausse de taux, il est à peu près au mois de juin 2015, minoritaire, ceux qui voient ça un peu après. Alors, il y en a aussi qui parient sur le fait que la Fed ira plus vite. Pour les investisseurs, c'est pas évident de parier sur le bon timing, on sait bien. Quel est un peu le regard que vous avez, vous, là-dessus?
Le regard est très paradoxal parce qu'il est certain que la Banque centrale américaine doit sortir de cet afflux de taux de liquidité et de taux bas parce que les taux réels sont encore très faibles, voire négatifs sur certaines zones. Et franchement, ça peut créer des bulles et donc un danger pour l'économie américaine. La Fed veut absolument pas que sa politique puisse créer des bulles, revenir à un taux d'emploi, un taux de plein emploi, oui, permettre effectivement la croissance. Pourquoi pas, c'est exactement la volonté de la Fed. Par contre, créer des bulles, notamment sur l'immobilier, notamment sur le secteur des technologies, on peut se poser des questions. Eh bien là, la Fed veut absolument contenir ces bulles-là. Donc il faut absolument qu'elle remonte ses taux et qu'elle soit un peu plus restrictive. Le problème, c'est qu'actuellement, elle a du mal à y arriver parce qu'on voit les taux longs qui continuent à baisser et qui sont à des niveaux très très faibles. On est à des niveaux plus bas au niveau des taux à 2 ans, à 10 ans, que l'on était il y a un an. Donc ça veut dire que les anticipations de taux à long terme sont bien plus basses, et notamment encore par une perspective d'inflation extrêmement basse au niveau mondial, voire même de déflation, les États-Unis en pâtissent, et elle a beaucoup de mal à faire remonter ses anticipations de taux et ses anticipations d'inflation. Donc elle est un peu entre deux eaux. Il y a un danger quand même de la part de la Fed de vouloir agir un peu plus pour ancrer les taux réels, c'est-à-dire les taux nominaux corrigés de l'inflation pour éviter ce risque de bulle. Donc le risque sur les États-Unis, ça soit que la Fed en fasse trop pour cette fois-ci donner un message assez fort au marché comme quoi les taux doivent cette fois-ci remonter.
Alors, du côté de la Banque centrale, vous l'avez rappelé, européenne, on est donc plutôt dans l'effet inverse. On peut se dire qu'historiquement, quand deux grandes banques centrales, alors à l'époque, il s'agissait de la Bouba pour les boursiers qui connaissent bien ça, Bouba, Réserve fédérale, c'est des années où ça n'a pas été forcément facile pour les investisseurs ensuite. Parce que là, quand il y a ce genre, là, on va y arriver en 2015.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment là deux grosses zones avec l'euro et le dollar qui sont vraiment désynchronisées. On peut quand même dire que la BOJ, la banque centrale du Japon, et la BCE sont à peu près sur le même cycle. En tout cas, elles sont complètement désynchronisées du cycle américain. On risque justement c'est-à-dire que cette désynchronisation va avoir un impact sur le change et sur le dollar qui va à peu près et qui va normalement permettre d'équilibrer l'équation.
Alors pour l'investisseur, il n'y a pas d'autre choix que les actions en 2015 ou il y a d'autres choix possibles?
Alors, il y a d'autres choix, encore une fois, sur l'obligataire sur la zone euro reste, à notre avis, à privilégier. Pourquoi? Parce qu'on a encore des fortes potentialités de baisse de taux sur la zone euro. Évidemment que les taux sont bas, donc on a l'impression qu'on ne peut encore rien gagner en termes de performance, mais il y a encore la valorisation sur le prix. Et il ne faut pas s'étonner du fait qu'on a encore des taux, notamment italiens, espagnols, qui à long terme peuvent, enfin, des taux à long terme qui peuvent baisser encore plus. Pourquoi? Pour avoir des taux réels négatifs, c'est-à-dire que la volonté de la Banque centrale pour relancer l'économie et relancer le crédit va être d'acheter potentiellement des titres d'État pour permettre à ces taux de baisser. N'oublions pas que les taux français sont quand même à 1%, donc ce qui était inimaginable il y a quelques mois. Donc il faut essayer d'aller plus loin et de penser en dehors de la boîte, comme disent les Anglais, pour imaginer des taux beaucoup plus bas. On a des taux allemands actuellement à 0,60, 0,69 sur le 10 ans. On peut imaginer encore un spread qui peut s'amoindrir sur les autres pays de la zone euro.
Donc il y a encore là-dessus.
Il y a encore beaucoup de potentiel pour cette année et avec une certaine certitude encore sur la volonté de la politique monétaire de la BCE.
Merci Alexandre Rizet d'avoir été avec nous.
Merci.